6h, 8h, Matin Première.
8h moins le quart sur la première. Il y a 50 ans, les trois astronautes d'Apollo 11 étaient en route pour la Lune. L'équipage mettra encore deux jours pour atteindre le sol lunaire le 21 juillet 1969. En quoi cette épopée a-t-elle encore un impact sur la conquête spatiale? Quels sont les enjeux politiques et scientifiques? Que peut-on encore découvrir? On en parle ce matin avec un astronome et astrophysicien belge, Michael Gillon, à l'origine de la découverte d'exoplanètes. Le chercheur a été récompensé par la NASA, directeur d'un laboratoire d'astronomie à l'Université de Liège. Il répond à vos questions, Thomas Gadis.
Bonjour Michael Gillon.
Bonjour.
Le premier pas sur la Lune, c'était il y a 50 ans. En quoi cela a été un pas pour l'humanité?
On a quitté les limites de notre propre monde, de notre propre petit univers, et on s'est tourné vers l'espace. On a redéfini les limites de l'humanité et on a fait ce que les générations antérieures ont fait, hein, aller toujours plus loin, aller conquérir de nouveaux territoires. Ça a été un symbole extrêmement fort pour l'humanité. Puis ça nous a fait rêver aussi, ça nous a montré que peut-être que l'espace nous appartiendrait un jour.
Et ça continue de faire rêver les astrophysiciens, là, 50 ans plus tard?
Oh, tout à fait, oui, bien sûr. On rêve d'étudier ces astres, ces exoplanètes à des années-lumière, mais aussi peut-être d'un jour d'envoyer des missions qui vont les étudier de près. Voir l'humanité qui s'étend vers les étoiles, je pense que c'est un des rêves de beaucoup de gens, y compris des scientifiques. Mais on en est loin, on en est vraiment très loin.
Est-ce qu'on pourrait retourner sur la Lune, là maintenant ?
Là maintenant, non, parce que tout simplement, ces missions Apollo, c'était basé sur une technologie assez vieille, qu'on qualifierait d'assez rudimentaire maintenant.
C'était de l'analogique,
oui.
Pour ne pas dire des boîtes de conserve, mais reproduire ça avec notre technologie actuelle, digitale, est-ce que c'est possible ou c'est hors de prix ?
C'est possible, mais ce serait extrêmement cher. Donc il y a des développements qui sont faits dans ce sens, mais le coût au niveau d'un État, dans le contexte économique, géopolitique actuel, est tout simplement énorme. Et je pense que la motivation, malgré toutes les belles annonces qu'on peut entendre, n'est pas assez forte pour lancer un programme aussi ambitieux en réalité.
Parce qu'il y a des annonces, hein, de retourner sur la Lune, mais aussi d'aller sur Mars. Quoi, tout ça, c'est du slogan politique ou justement, c'est un moteur pour faire avancer la recherche, même si au final, on n'ira pas sur Mars, on n'ira peut-être plus sur la Lune.
Je pense que c'est un moteur important. Il y a des développements qui se font dans ce sens-là. Mais vraiment, mettre tous les moyens pour arriver à un tel objectif, il n'y a pas le contexte, la motivation nécessaire pour y arriver. Et ça ne peut pas, je crois, à l'heure actuelle, passer par un seul État comme les États-Unis. Ça doit passer aussi par des compagnies privées, par des intérêts économiques qui vont se mêler aux intérêts géopolitiques, symboliques, scientifiques. Il faut que tous ces éléments se mettent ensemble pour qu'une telle mission ait lieu. Juste les États-Unis qui veulent envoyer des hommes sur la Lune juste pour montrer qu'ils sont capables de le faire, je pense que ça ne va pas survenir.
C'était le contexte il y a 50 ans, hein, ce contexte de conquête de l'espace. Mais là, dorénavant, c'est plutôt les retombées économiques qui primeraient, en fait. Envoyer un humain sur Mars ou sur la Lune, il faut que ça rapporte aussi économiquement.
Tout à fait, oui. Donc par exemple, je pense à SpaceX, qui me semble la société d'Elon Musk, qui me semble plus crédible en fait que la NASA.
Qui est une société privée, du coup.
Une société privée qui me semble plus crédible dans cet objectif d'aller sur Mars. Parce que dans le contexte actuel, avec une économie globale telle qu'elle existe maintenant, le fait d'avoir des objectifs ambitieux qui vont monter, qui vont développer de la nouvelle technologie, va avoir des retours économiques importants. Une société peut s'y retrouver, les actionnaires peuvent s'y retrouver. Et si les ambitions sont bien mêlées, sont bien combinées avec le retour économique, on peut aussi avoir une contribution des États, mais ça ne va pas être majoritaire, je pense. Alors on peut arriver à obtenir ce genre d'événement historique, mettre un pied sur Mars.
Alors Michael Gillon, vous êtes chercheur dans ce domaine-là, astrophysicien. On se pose la question, pourquoi on doit encore aussi envoyer des humains dans l'espace, à l'heure où les technologies, les robots permettent éventuellement de faire même mieux qu'un homme dans un cockpit, entre guillemets, dans l'espace?
Ben, je pense que là, on est plus dans le domaine de la symbolique. À nouveau, on veut repousser les limites de l'humanité. C'est vrai qu'on nous dit que les robots ne peuvent pas, par exemple, faire tout ce qu'on pourrait faire sur Mars. Mais les développements en robotique sont tels, en intelligence artificielle sont tels, que cet argument, il me semble un peu faible. Je pense que c'est surtout le fait que nous autres, êtres humains, nous sommes des êtres très curieux, nous sommes des explorateurs, nous avons toujours voulu aller plus loin, ça fait partie de notre nature.
C'est la question du progrès qu'il y a derrière ?
C'est ça. Notre civilisation, notre mode de civilisation occidentale capitaliste est basé sur le progrès aussi. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous convient, qui nous définit. Cette envie de toujours de faire des choses nouvelles, d'aller toujours plus loin. Et aller sur Mars, ça fait partie aussi du rêve de l'humanité, du subconscient de l'humanité. Parce qu'on a envie d'aller au-delà des limites de notre propre planète.
Et pourtant, si on se souvient d'Apollo, on se souvient aussi des dangers que ça peut comporter pour l'homme. Si on envoie un homme dans l'espace et qu'il y a des morts, là, ça va anéantir toute la conquête spatiale, justement.
Ah, ça va, oui, si en effet on envoie des gens sur Mars et qui meurent dans leur capsule, là, ça va être un frein. Parce que là, le retour aussi, l'impact économique, l'impact au niveau de l'image des sociétés qui se sont engagées dans un tel projet va être totalement catastrophique aussi. Donc, c'est clair qu'un tel projet, on nous annonce toujours des dates qui sont très, très, très tôt. Hein, dans quelques années, on va sur la Lune, dans 10 ans, on va sur Mars. Mais j'y crois pas du tout. Le moment où on fera ce genre de choses, c'est le moment où on est totalement sûr, ou le moment où les risques sont vraiment minimum, ou le moment où la technologie est vraiment mature et où voilà, tout aura été calculé et le risque sera vraiment très très faible.
À la tête d'une équipe internationale, vous avez découvert ce qu'on appelle des exoplanètes, c'était en 2017. La NASA d'ailleurs vous a récompensé pour cela. Que cherche-t-on en fait ? C'est toujours cette idée qu'il y a une autre forme de vie ailleurs, là-bas dans l'espace ?
Moi, c'est ce qui motive mes recherches et là, beaucoup de mes collègues aussi. Donc voilà, on sait par exemple que notre seule galaxie compte 300 milliards d'étoiles. On vit autour d'une de ces 300 milliards d'étoiles. C'est clair que la possibilité qu'il y ait de la vie ailleurs, elle est bien là. Et maintenant, on a la technologie, on a les moyens de tenter de répondre à cette question. Donc, on a, depuis une trentaine d'années, un peu moins de 30 ans, on a détecté des planètes autour d'autres étoiles, ces exoplanètes. Et l'étape d'après, ça va être de détecter des planètes qui pourraient contenir de la vie et détecter des traces de vie, d'éventuelles traces de vie.
Mais
ça,
on parle de plusieurs dizaines d'années-lumière là-bas. En quoi ça peut m'impacter, moi, en Belgique, ces recherches là-bas ?
Ah, tout d'abord, il y a cette quête de savoir qui nous définit, cette curiosité. Je pense que
c'est juste du rêve, quoi.
C'est du rêve, mais c'est aussi ce qui nous définit en tant qu'être humain. Je pense, nous sommes des êtres curieux et on ne vit pas une vie d'insecte où on ne fait que les choses nécessaires pour la procréation de l'espèce, etc. On a une conscience très développée, on a une curiosité, on a une individualité, on a un besoin de savoir. Mais à côté de ça, toutes ces recherches ont des retours aussi technologiques très importants. Chaque fois qu'on veut développer un nouvel instrument qui va aller sonder l'atmosphère d'une exoplanète à des années-lumière, on développe des nouvelles technologies qui vont avoir des retours sur le tissu socio-économique d'une région. Par exemple, il y a des spin-offs ici en Wallonie qui sont basés sur l'espace, qui se sont développés grâce à des projets spatiaux, qui sont associés à des projets spatiaux, qui ont des retours économiques. Il y a des technologies qui vont nous être utiles dans la vie de tous les jours, qui sont le fruit de la conquête spatiale.
Et pour tenter d'imprimer une petite marque locale, il se murmure que vous essayez de donner à ces exoplanètes des noms de bières trappistes belges, c'est vrai ça ?
Oui, tout à fait, c'est un projet un peu fou dont on parle depuis 2017, depuis la détection de ces exoplanètes. Ce serait vraiment sympathique de les nommer du nom des 6 bières trappistes.
Mais c'est pas si simple apparemment, il faut passer par des instances internationales et va falloir mettre le Premier ministre dans l'histoire.
Ben, en fait, il faut passer par l'Union Astronomique Internationale et ça ne peut pas être le fruit, ça peut être le projet de quelques astronomes, même s'ils ont détecté ces exoplanètes, il faut un support du public assez fort. Donc, il faudrait qu'on organise une campagne assez forte. Évidemment, si le peuple belge est prêt à soutenir ça, on aurait beaucoup plus de poids.
Mais en tout cas, on rappellera quand même que le système solaire porte déjà le nom de Trappist 1. Ça, c'est quand même votre marque de fabrique du coup.
Oui, tout à fait. Donc, notre télescope qui a détecté les premières exoplanètes s'appelle Trappist. On va lui donner une petite note belge dans son nom. Et on a le droit, quand on trouve des planètes autour d'une étoile, de renommer l'étoile du nom du télescope ou du projet qui a trouvé les planètes.
Michael Gillon, qui est en train de gagner cette conquête de l'espace en ce moment ? On sait qu'il y a un jeu géopolitique aussi derrière.
Je pense que le contexte est tellement compliqué et que c'est très difficile de le dire. Je pense que des organismes comme la NASA sont en recul.
Donc les Américains.
Clairement.
Et l'Europe.
Oui, l'Europe est encore, je dirais, loin derrière. On voit des nations émergentes comme la Chine qui développe un programme spatial fort, l'Inde aussi. Et puis on a toutes ces sociétés qui sont liées à l'espace, l'exploitation minière d'astéroïdes qui se dessinent.
Donc on pourrait aller rechercher dans l'espace des minerais spéciaux, rares.
Tout à fait, oui, tout à fait. Donc des éléments qui sont très difficiles et très chers à obtenir ici sur Terre et qui seraient en quantité très grande dans certains astéroïdes proches de la Terre. Ce seraient des missions qui auraient un retour aussi économique très fort, qui pourraient changer même toute l'économie mondiale si on avait des quantités très, très grandes, je ne sais pas, de palladium, de que sais-je, d'un autre métal.
Mais on évoquait en début d'interview les deux blocs, hein, l'URSS et les États-Unis. Ici, il y a plusieurs acteurs, vous évoquiez la Chine, l'Inde, mais est-ce que c'est aussi juste du bluff pour dire nous aussi on sait le faire, ou il y a une réelle capacité à aller concurrencer les Américains et éventuellement les Européens ?
Je pense que là, une nation comme la Chine, ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle veut s'imposer sur la scène géopolitique internationale. Elle veut marquer les esprits, elle veut marquer aussi ses citoyens en disant, voilà, nous aussi on peut le faire, on est une nation forte maintenant, on ne doit pas être modeste, on peut envoyer des choses sur la Lune. Je crois que c'est plutôt symbolique, il n'y a pas de retour vraiment scientifique dans ces petites missions avec un petit rover qui se balade sur la Lune. Mais là aussi, on pourrait imaginer à l'avenir des retours économiques très forts. Par exemple, la Lune, elle contient beaucoup d'hélium-3 qui pourrait être un combustible pour la fusion nucléaire. On ne la maîtrise pas encore, mais le jour où on maîtrise la fusion nucléaire, on a une source d'énergie qui pourrait révolutionner notre civilisation, résoudre beaucoup de problèmes aussi au niveau énergétique. Et voilà, celui qui maîtrise la Lune à ce moment-là pourrait avoir un avantage énorme.
Vous venez de dire révolutionner notre civilisation. Il y a aussi, derrière cette conquête de l'espace, un mythe qu'à un moment donné, ça pourrait être le plan B. L'espace, si la Terre va de plus en plus mal, on sort d'une campagne électorale rythmée par justement ces questions environnementales, climatiques. Est-ce juste un mythe ?
Non, c'est totalement un mythe, en fait, parce que la seule planète qui nous convienne vraiment, c'est la Terre. On est le fruit de l'évolution biologique sur Terre. On est totalement adapté au milieu terrestre, nous sommes un animal qui est totalement inapte pour vivre sur Mars, même sur une exoplanète où on aurait de l'eau liquide, etc. Si on met un être humain là, il est très probable qu'il ne va pas survivre très longtemps. Et d'autant plus s'il y a des formes de vie sur cette planète, il va se trouver en concurrence avec des microbes pour lesquels il n'est pas du tout adapté. Il va pas survivre. Donc nous sommes le produit de la Terre et le plan B, c'est le plan A, c'est la Terre, c'est tout. Donc installer des colonies dans le système solaire, ça peut être. J'espère qu'un jour ça arrivera, mais la maison, ça restera toujours la Terre.
On nous annonce toujours des dates pour le retour sur la Lune, mais moi, je n'y crois pas du tout. Il y a 50 ans, avec le pas sur la Lune, on a quitté les limites de notre propre monde. On a redéfini les limites de l'humanité. Déclaration ce matin de Michael Gillon, invité de Thomas Gadisseux. J'en profite juste en quelques secondes pour remercier toute l'équipe qui m'a brillamment et chaleureusement accompagné ces 15 derniers jours. Je vous souhaite un bel été.